Ainsi donc, frères et sœurs, nous sommes débiteurs, non de la chair, pour vivre encore selon une logique humaine. Car si vous vivez selon cette logique humaine, vous allez mourir. Mais si, par l'Esprit Saint, vous faites mourir le comportement du corps de votre être égoïste, alors vous vivrez. Toutes les personnes qui sont conduites par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Car l'Esprit que vous avez reçu n'est pas un esprit qui vous rend esclave ou qui vous remplisse de peur, mais c'est l'Esprit Saint qui fait de vous des enfants de Dieu et qui nous permet de nous écrier « Abba, Père !» Parce que l'Esprit lui-même atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Je résume très brièvement tout ce que nous a dit Paul presque depuis le début, pour situer cette épître. Quatre choses. Un, l'humanité est déchue. Ça va, ça? Et du coup, on est habité, contaminé, mais aussi habitué au mal. L'humanité s'est offerte plus ou moins consciemment au mal, et donc aucun d'entre nous n'est capable de faire une journée parfaitement bonne. Une journée où on pense bien, on agit bien, on parle bien, sans faute. Ça n'existe plus. Et même dans nos intentions les meilleures, parfois, si on va creuser vraiment dans le pourquoi on fait ça, on pourrait toujours avoir un soupçon que peut-être que mes intentions ne sont pas parfaites. Parce qu'on n'arrive même plus à sonder le fond de notre cœur. Tellement les choses sont mélangées. Mélangées. Pour délivrer l'humanité de cette condition, Dieu vient la visiter en personne. Cette personne, nous le croyons, c'est Jésus. Et Jésus accomplit une œuvre, un espèce de rituel cosmique, un truc qui a une portée qui n'a pas de fin. Nous, on n'en voit pas la fin. C'est la croix, d'accepter d'être crucifié pour l'humanité. Et ce rituel a rendu possible qu'on soit réconcilié avec Dieu. Mais pas simplement qu'on soit réconcilié avec Dieu, genre Dieu dit « Ok, c'est la paix entre nous ». Plus encore qu'on soit amené à devenir une sorte de nouvelle humanité. Parce que, en même temps qu'il se réconcilie avec nous, il plante en chacun de nous une semence d'une nouvelle humanité. Nous sommes l'humanité 2.0. D'abord, nous sommes différents de quatre façons. L'Esprit de Dieu habite en nous. C'est ce que nous croyons, nous les chrétiens. On pense que cet esprit immense, infini de Dieu, il le fait cohabiter avec notre esprit, une présence réelle dans nos pensées, par sa volonté, par son amour, en chacun de ses disciples. Deuxièmement, notre cœur. Change mon cœur, Seigneur. Ézéchiel nous dit, je vais enlever votre cœur de pierre et mettre à la place un cœur de chair. Notre cœur qui n'aime pas la volonté de Dieu, ou qui est méfiant, hostile, prudent quant à la volonté de Dieu, quand il est transformé, dit « Ah mais en fait, c'est pas bête ». Il découvre la sagesse de la volonté de Dieu, voire même, il la trouve désirable et bonne. Et ça, c'est quelque chose de formidable parce qu'on peut collaborer librement avec Dieu, et ça fait du bien. Troisième chose, cet esprit divin qui habite en nous, pose une graine incorruptible qui garantit que vous allez revenir tous de la mort à la vie. Et enfin, cet Esprit Saint marque que vous avez changé de régime, pas de régime alimentaire, mais d'un ordre, de gouvernance, Bruno a évoqué, voilà, dans notre monde, c'est normal d'acheter de l'eau. Une source appartient à qui ? On devrait dire à tout le monde. C'est de l'eau de pluie qui va dans la terre et qui fait des nappes phréatiques et qui ressortent. Non, non, nous, on peut acheter des sources. Voilà. Et les privatiser pour vendre de l'eau en bouteille. Dans le royaume de Dieu, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se réfléchit pas comme ça. Ok ? Tous ces changements ont vraiment eu lieu en nous. Ils sont réels. Mais on ne les voit pas. Pas tous. Le changement de cœur, je me rappelle Frédéric ou Chantal qui nous parlent souvent de « je ne suis plus le même, je ne pense pas pareil ». Ça, vous nous l'avez dit. Mais le changement d'ordre, est-ce qu'on le voit ? Le fait que je vais ressusciter, est-ce que je le vois ? Cette présence intérieure de l'Esprit Saint, parfois on a du mal à... Est-ce que c'est vraiment Dieu qui me parle ? Est-ce que c'est vrai que Dieu me parle à travers mes pensées ou à travers mon... Je ne sais pas. Ce que Paul est en train de dire quand il dit « Vous avez des obligations non envers la chair ou non envers les faiblesses humaines pour vivre selon la logique. » Il est en train de dire « Vous ne devez rien à ce monde. » C'est pas obligation, ou dans ma version c'était quoi ? C'était débiteur. Il n'est pas en train de dire que vous avez une dette et que vous devez rembourser. Ah, vous aviez une dette envers le monde et vous deviez la rembourser, mais maintenant, ah, la banque divine a racheté votre emprunt et du coup maintenant, ce que vous deviez au monde, vous le devez à Dieu, donc vous êtes débiteur de Dieu. Non, comme l'a rappelé très bien Bruno ce matin, l'évangile est gratuit. Donc, Dieu ne vous sauve pas pour vous mettre en dette. Dieu ne vous sauve pas pour vous mettre en dette. Donc on n'est pas passé d'une banque à une autre qui aurait racheté notre prêt pour modifier le taux d'intérêt. C'est pas ça. Quand Paul dit « vous ne devez rien à », c'est cette obligation morale. Je me dois à mes enfants, je me dois à ma famille, je me dois à mes amis, je me dois à mon église. Paul dit en romain, je me dois aux Grecs et aux barbares. Pour dire, il faut qu'il aille annoncer l'évangile aux Grecs et aux barbares. Mais il n'a pas de dette envers les Grecs et les barbares. D'accord ? Ou en Galate, il dit, ah ben, si tu veux te faire circoncire, parce qu'en Galatie, il y avait des juifs pseudo-chrétiens qui disaient, si tu veux être un vrai pur chrétien, enfant de Dieu, il faut quand même que tu te fasses circoncire. Paul, il dit, ben non, il ne faut pas le faire. Mais si tu te fais circoncire, tu es débiteur, enfin, tu as des obligations envers toute la loi. Tu te fais circoncire selon la loi, il faut que tu obéisses à toute la loi. Ce n'est pas une dette, encore une fois. Et là, pareil, ce n'est pas l'idée de dette, parce que tout est gratuit, c'est l'idée de à qui on se doit. Et Paul dit, vous ne vous devez plus à ce monde. Vous ne vous devez plus à ce monde. Devez-vous à Dieu ? Devez-vous à Dieu. Et je vais sauter 15 pages de ma prédique pour aller à l'essentiel. Hein ? On dit souvent que nos frères et sœurs en humanité qui n'ont pas Jésus n'ont pas d'espérance. C'est pas vrai. Ils en ont plein. Ils espèrent plein de choses. Ils espèrent mourir vieux. Ils espèrent échapper à la maladie, à la souffrance. Ils espèrent avoir des amis. Ils espèrent que leur famille va perdurer, s'épanouir. Professionnellement, ils espèrent une bonne retraite pour leurs proches. Ils espèrent trouver l'âme sœur. Ils espèrent réaliser leurs rêves, trouver un métier qui les épanouisse professionnellement. Chrétien ou non, en fait, on espère beaucoup de choses dans la vie. En revanche, quelle assurance, quelle certitude avons-nous ? Sur quelle certitude puis-je construire ma vie de sorte qu'elle ait des solides fondations ? Sans Dieu, je n'en vois pas beaucoup. ou plutôt, je n'en vois pas beaucoup qui soient positives. Parce que tous, nous avons l'assurance de souffrir. Tous, nous avons l'assurance de mourir, de connaître l'abandon, la trahison, la manipulation. Tous, nous aurons encore des moments de peur, de doute, de pleurs. Tout cela, je peux vous le promettre. Et si ce n'est pas encore arrivé, patience. Mais il est bien amer de construire nos vies là-dessus. N'est-ce pas pourtant ce que nous faisons ? Nous réduisons notre cercle de confiance pour garder que les personnes dont on est le plus sûr qu'ils nous feront le moins de mal, qui penseront comme nous. Nous cultivons un entre-soi rassurant, nous contractons des assurances, nous investissons dans des diplômes, nous achetons de la pierre, nous faisons des placements sûrs, stables, nous façonnons l'étranger, celui qui est différent à notre image, ou bien nous le gardons dans une posture de faiblesse. Parce que ce dont nous sommes sûrs, c'est que la souffrance arrive et qu'à la fin, il y a la mort. Nous espérons plein de choses, croyants ou non. Mais il y a bien peu de choses positives sur lesquelles nous pouvons être sûrs quand nous ne sommes pas croyants. Mais notre rencontre avec Dieu, avec celui qui nous a réconciliés, Jésus-Christ, change les choses. Je suis coupable de beaucoup de choses dans ma vie, et ma vie n'est pas encore finie. Ça, c'est une certitude. Mais c'est également certain que tout le mal que j'ai fait, que je fais, que je ferai, est condamné en même temps que Christ est mort sur la croix. Et Dieu considère que ma punition est tombée, nous sommes réconciliés, lui et moi. C'est une promesse que Dieu fait à tous ceux qui sont baptisés. Confidence, je n'accomplirai pas dans ma vie tout le bien que je peux faire, ni même que je veux faire. Je vais vivre au-dessous de mes ambitions et de mon potentiel. Je ne vais pas cultiver tous les talents que Dieu m'a donnés, saisir toutes les opportunités qui passeront, parce que je vais être paresseux, parce que je vais être lâche, parce que je vais avoir peur, ou que je vais préférer des choses médiocres, plus simples. Ça, c'est une certitude. Mais il est tout autant certain que Dieu va m'accueillir dans l'autre vie avec les mêmes égards qu'il accorde à Jésus-Christ, qui lui a vécu une vie parfaite, d'une ambition tellement haute, une vie qui a changé l'histoire de l'humanité. Il va m'accueillir comme ça. C'est une promesse que Dieu fait à tous ceux qui sont baptisés. Scoop, je vais mourir un jour. C'est probablement vrai, à moins que la fin du monde ait lieu avant que je meure. Mais c'est plus certain encore que je vais revenir à la vie éternelle. Il y a un risque presque absolu que je meure, sauf si Jésus revient avant. Mais il y a absolument aucun risque que je ne ressuscite pas. C'est une promesse que Dieu fait à tous ses baptisés. On reste dans la confidence. Je n'aime pas parfaitement ma femme, ni mes enfants, ni ma famille, ni mes amis, ni mon église, ni mon voisin, ni mon collègue. Et une vie entière d'efforts ne m'y conduira pas plus. Ça, c'est une certitude. Mais il est certain de la même façon que Jésus veut m'aimer, moi, de tout son cœur. Et il s'acharne à vivre pour moi, d'intercéder pour moi, de veiller sur moi, d'être mon roi, mon maître, mon Dieu, mon ami. Et il le fait maintenant et pour toujours, alors que je ne suis pas aimable à ce point, d'après nos critères. Mais c'est une promesse que Dieu fait à tous ceux qui sont baptisés. Je n'arriverai pas à être responsable de tout ce qui m'est confié. Si vous voyez mon jardin, mon corps, mes talents, ma maison, mon ministère, l'héritage que je vais recevoir de mes parents, ma culture française, de toutes ces choses, qu'est-ce que je fais en tant qu'intendant? Est-ce que je les valorise? C'est certain, pas assez. Et vous savez ce qui est certain aussi? C'est que je vais être assis sur le trône de Dieu et qui va faire de vous et moi des reines et des rois pour régner sur son nouveau monde pour toujours. C'est une promesse que Dieu fait à tous ceux qui sont baptisés. Alors, question, à qui vous pensez que je devrais me donner, me consacrer pour cette vie? Est-ce qu'il serait sage de continuer à servir des principes, des idées, des valeurs, des personnes qui sont fondées sur un monde dont la seule certitude, c'est de souffrir et de mourir à la fin? Et il n'y a rien d'autre. Ils peuvent m'offrir rien d'autre. Ce qui est sûr, tu vas souffrir et tu vas mourir. Il y a d'autres. Ah, j'ai plein de peut-être, si tu veux, je peux t'enfiler. Alors, peut-être ton couple, il va être génial. Peut-être que tu vas devenir un youtubeur hyper célèbre. Peut-être. Ça, tu en veux des peut-être, j'en ai plein. Des sûrs, ah, j'ai ces deux-là. Si tu as un nombril, normalement, ça, c'est une troisième certitude aussi que tu peux avoir. Parce que tous ceux qui ont un nombril, ils souffrent, ils meurent à un moment. Ou vais-je me consacrer, me donner, me sentir obligé envers celui qui ajoute à ces tristes certitudes, parce que soyons honnêtes, il ne les enlève pas. Et qui ajoute à ces certitudes d'autres certitudes. La liste que j'ai faite là, elle n'est pas exhaustive, hein, de toutes ces certitudes que Dieu m'offre. Certitude que je ne serai plus jamais seul, que je ne serai jamais abandonné, que ma valeur, l'importance que j'ai, est immense et fondée et stable. Vivre pour retarder la mort, fuir la souffrance. Il ne faut pas croire que c'est stupide. C'est super normal et super intelligent et super sage si mon horizon ne dépasse pas la mort. C'est la meilleure stratégie à faire si mon horizon ne dépasse pas la mort. Il ne faut pas être prétentieux. Et comme Paul le dit, vous avez reçu le sceau des promesses de Dieu sur votre vie. Le sceau des promesses de Dieu sur votre vie, c'est l'Esprit Saint. Les promesses de Dieu sur votre vie, c'est le baptême d'eau. Le sceau des promesses de Dieu, c'est l'Esprit Saint. Il y a dans nos vies maintenant des certitudes nouvelles, belles, heureuses, joyeuses, rassurantes, consolante, guérissante. Et c'est à ça que vous êtes appelés. C'est fini. Il y avait la suite, mais... Alors, trois difficultés et puis trois conseils. Mais ça va être très rapide. D'abord, comme difficulté, il y a notre civilisation occidentale. On a une civilisation matérialiste qui a atteint des sommets de confort, de sécurité incroyables. Et ça, bâti sur les ruines d'autres pays qu'on maintient volontairement dans la pauvreté et dans la misère et qu'on exploite pour garantir notre stabilité à nous. Ça, c'est la vérité. À tel point que notre confort et notre sécurité, ce sont des idoles. Et qu'on est terrifié, terrifié à l'idée de les perdre. Voilà. Première chose. Et qui va complètement avec ça, notre matérialisme. C'est-à-dire quoi? Il n'existe que ce que je peux voir, toucher, peser, mesurer. Ça, ça existe. Ça existe. Mais ce qui est invisible, ça n'existe pas. Toutes les promesses de Dieu que je viens de vous citer sont invisibles. Elles sont plus réelles, plus sûres, plus stables que le cycle du soleil qui se lève tous les jours. Mais elles sont invisibles, alors que le soleil, je le vois. C'est pour ça qu'à la Sainte-Seine, j'ai essayé de trouver cette façon de vous faire sentir qu'il y a quelque chose d'invisible là, que vous recevez aussi réellement que ce pain. Mais c'est difficile, parce que nous sommes des matérialistes. Tout chrétien que nous sommes, on est des matérialistes. Alors comment j'arrive à construire ma vie sur des promesses invisibles? Pas facile. Retrouver dans notre vie le sens de l'invisible. Hein ? Si je sors une énorme insulte, bien placée, bien méchante à Julio, en fait, il va avoir mal. Mais qu'est-ce qui lui aura fait mal ? C'est la vibration de l'air que ma bouche, que mes cordes vocales vont générer ? Non, c'est le sens des mots vis-à-vis de sa vie qui va lui faire mal. C'est complètement invisible, c'est complètement impalpable, ça ne se mesure pas, ça ne se pèse pas. Un ordinateur pourrait avoir une vibration, mais pas du tout comprendre le sens de la méchanceté. Et pourtant, ça a un impact énorme. À l'inverse, un « je t'aime » sincère. Il existe des choses pas irréelles, mais immatérielles, et qui conduisent ce monde, qui ont un impact, une influence sur ce monde. Et il faut que ces promesses de Dieu aussi. Alors, trois conseils. Parlez-en entre vous. Parlez de l'éternité. Bruno a dit, est-ce qu'il y en a qui ont de l'imagination pour imaginer les arbres des champs qui battent des mains ? Moi, oui. Paul dit, il faut garder les yeux fixés sur les choses d'en haut. Franchement, comment voulez-vous que ces promesses de résurrection de la chair. Je rencontre des chrétiens qui ont 40, 50, 60 années de vie chrétienne qui disent « Non, non, mais j'arrive pas à m'y faire. » Voilà notre problème. Ça fait 2000 ans que les chrétiens proclament la résurrection de la chair. Ils proclament que la tombe de Jésus, elle est vide. Ça veut dire qu'il n'a pas changé d'un corps A à un corps B. Sinon, le corps A serait encore dans la tombe. Donc, vous allez garder votre corps A. Il va être mis à jour. Vous avez du mal à le vivre avec ? Je comprends. Vous êtes dans un monde matérialiste. Mais il faut en parler de cet avenir. Il faut parler de ce que vous allez vivre. Quand je dis à Elliot, mon fils, dans 2 semaines, on va aller faire ça. Mais c'est fini. Les écluses sont lâchées. Et pendant 2 semaines, il va faire quoi ? Il va nous parler. Il va se projeter. Il va s'imaginer. Il va se raconter. Il va se réjouir maintenant de ce qu'il va vivre dans 2 semaines. Parce que, à force d'en parler, il le rend réel pour lui. Et vous ? De toutes ces promesses. Parlez-en, rendez-les concrètes, réelles pour vous. C'est votre avenir, c'est votre destin. Et comme ça, ça va vous ravir dans tous les sens. Et vos choix, vos décisions, vos motivations vont être impactées par la pensée de l'éternité. Deuxième chose. Vous avez vécu, nous avons vécu, ouais, je dirais vous, nous avons vécu dans un régime de vie, un ordre des choses, où on vous a appris le mensonge de base de l'humanité. Tout se mérite. Tout se mérite. Tout se mérite. D'accord ? Pourtant, certains naissent sains, d'autres malades, certains naissent riches, d'autres pauvres, certains dans des pays en paix, d'autres des pays en guerre. Certains héritent de titres fonciers, d'autres hérite de dettes à éponger, mais sinon, tout se mérite. Il y a qu'à Faucon ? Faux. Ce monde n'est pas juste. Ce monde n'est pas juste. Et on ne reçoit pas le même tirage de cartes au départ. C'est pas vrai. Et on n'a pas les mêmes parcours de vie tracés devant nous. C'est pas vrai. C'est faux. Fini ce mensonge. On passe notre vie à tirer la couverture et les plus puissants tirent le plus la couverture à eux. Mais apprenez la vérité en contemplant l'amour de Dieu pour vous, car Dieu vous aime. Paul nous dit dans la deuxième partie du texte, vous êtes des enfants de Dieu, vous avez reçu un esprit non pas d'esclave pour être dans la peur, parce qu'un esclave, il a besoin de continuer à être rentable s'il veut vivre. Si l'esclave ne sert plus à rien, il est remplacé. Mais l'enfant, si vous remplacez vos enfants quand ils ne servent plus à rien, malheur à vous. Malheur à vous. Et nos enfants, nous sommes appelés à recevoir de Christ pour les aimer 70 fois cette fois. Vous n'êtes plus esclaves, vous êtes des enfants de Dieu, adoptés. Pourquoi ? Pourquoi vous ? C'est son problème. C'est lui qui a décidé. Vous êtes aimés de Dieu. Ce n'est pas un mérite, c'est un choix de sa part. Eh bien, il faut vous plonger dans cet amour, mais plonger constamment. Constamment. Vous savez pourquoi ? Pour être obligé envers Dieu. Vous voyez, quand les premières années de mariage, les potes m'invitent à boire une bière, et que sans aucun souci, à 11h, je fais « Bon les gars, je vous laisse. Je dois aller voir Camille. » Et je ne suis pas dérangé du tout parce que je l'adore. Et ça ne me fait rien du tout de laisser ces gars pour aller voir ma femme. D'être obligé envers elle, c'est facile parce que je l'aime. Comment me sentir obligé facilement envers Dieu ? Ben, baignez-vous dans son amour. Troisième et dernier, il faut choisir d'aimer à notre tour. La règle simple. Seule chose que l'on se doit les uns les autres, nous disent les apôtres, aimez-vous les uns les autres comme Christ vous a aimé. Si vous devez résumer, ok, Seigneur, comment vivre en obligation vis-à-vis de toi ? Voilà, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est tout. C'est tout. Vivre dans l'amour du Christ pour aimer les autres. Bon, c'est des principe immense que je balance, faute de temps. Bon courage. Dieu vous aime. Amen.